Bienvenue sur le Pôlecast, le podcast du pôle de développement professionnel enseignant de Réseau Canopée.
Une production dédiée aux formateurs et enseignants qui souhaitent prendre en main leur développement professionnel, mais aussi pour tous ceux qui ont à cœur de s'engager dans cette thématique.
Cet épisode porte sur le thème des neurosciences et plus spécifiquement sur l'attention. Et comme toujours, il articulera trois composantes.
Au cœur de l'épisode, dans le pôle recherche, vous retrouverez le chercheur Jean-Philippe Lachaud, spécifiquement sur les problématiques de l'attention à l'école.
Son intervention sera illustrée par le pôle terrain. Nous emmenons le micro à la rencontre d'une enseignante, Aurélia Onisco, et d'une formatrice, Dolores Trich, qui nous expliciteront leurs pratiques autour des neurosciences en éducation, et plus particulièrement leur façon d'aborder l'attention à l'école avec leurs élèves et avec les enseignants.
Enfin, dans le pôle ressources, nous mettrons le focus sur des essentiels pour aller plus loin et cultiver votre développement professionnel sur la thématique de cet épisode.
Nous sommes Marjorie Pouillon et Régis Forgione, membres du pôle de développement professionnel enseignant de Réseau Canopée, et on entre immédiatement dans le vif du sujet.
Bonjour Jean-Philippe Lachaud.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à l'INSERM en neurosciences cognitives et co-directeur de l'équipe EduWell du Centre de recherche en neurosciences de Lyon.
Exactement.
Alors cet épisode du podcast sera illustré d'extraits audio enregistrés avec Dolores Trich, qui pilote les enseignantes et enseignants du groupe expérimental Atoll déployé dans le Grotest, et d'Aurélia Onisco, qui est professeure des écoles et qui participe à ce groupe expérimental, mais qui a aussi mis en place le programme Atoll avec ses classes depuis plusieurs années déjà.
Alors, c'est un programme d'éducation à l'attention qui a été développé par Jean-Philippe Lachaud, qui est neurologue, spécialiste des mécanismes de l'attention et de la concentration. Il est auteur de plusieurs livres sur le sujet, dont « Les petites bulles de l'attention » que j'ai pu lire. Et c'est vraiment ce livre qui m'a donné envie d'approfondir le sujet de la connaissance du cerveau des enfants. Donc c'est par la lecture de cet ouvrage que j'ai aussi connu le programme Atoll, qui est disponible donc sur le site de ce programme, mais qui est maintenant aussi édité. Et c'est vraiment un programme qui est clé en main. Il donne aux enseignants déjà toutes les informations nécessaires au préalable pour bien mener le programme, pour bien connaître le cerveau, ses mécanismes. Et ça donne aussi toutes les fiches de préparation, les documents destinés aux élèves qu'ils vont pouvoir utiliser en classe.
Alors, Monsieur Lachaud, on va commencer par les premières petites questions de présentation du programme Atoll. Et nous, la première question qui nous vient justement pour expliquer le mieux possible aux personnes qui vont nous écouter, c'est pourquoi est-ce que vous avez mis en place ce programme ? Comment est-ce qu'il est né ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur à vos travaux de recherche sur ces questions-là ?
Alors oui, il y a eu un déclencheur qui était une conférence que j'avais faite sur les mécanismes de l'attention auprès d'enseignants. C'était dans le secteur d'Oulin, la circonscription d'Oulin dans la région lyonnaise. Et la conférence était un peu théorique, hein, c'était d'expliquer en gros comment fonctionnait l'attention. Et à la fin, des enseignants sont venus me voir, ils m'ont dit « c'est bien, mais on a bien compris, mais concrètement en classe, qu'est-ce qu'on peut faire ? Et est-ce que vous avez des outils pratiques à nous proposer ?» Et voilà, ça a été un peu le déclencheur, c'était de dire « ok, d'accord, je peux peut-être vous proposer quelque chose, mais il faut qu'on construise ensemble ». Je ne peux pas, moi, chercheur, arriver et puis sans connaissance de l'attention en classe, de ce que c'est que l'attention vécue 8 heures par jour dans vos classes, vous proposer directement des solutions. On va les construire ensemble. Et donc, c'est comme ça qu'est né le projet Atoll, qui était une tentative de partir de ce qu'on connaissait en termes de théorie sur l'attention et d'arriver à quelque chose de très pratique qui soit adapté vraiment à la classe.
Ce projet Atoll, il est, j'ai l'impression en tout cas, bien identifié par pas mal d'enseignants, par le monde éducatif, notamment, à mon petit avis, parce qu'il y a des métaphores et des analogies vraiment signifiantes pour les élèves, ce fameux équilibre attentionnel, dont vous direz peut-être quelques mots tout à l'heure, la poutre de l'équilibre attentionnel, et des choses très actionnables, très concrètes à mettre en place avec ses élèves au quotidien. Et ce qu'on se demandait, dans l'essaimage de ce projet, et par exemple via le groupe expérimental qu'il y a dans le Grand Est, comment ils fonctionnent ces groupes ? Quel est le lien entre les chercheurs et les enseignants ? Comment que ça se déploie concrètement ?
En fait, le programme, il est contraint par une limite, qui est une limite de temps, qui est que nous, on est une toute petite équipe de recherche. En fait, on est essentiellement moi, plus une autre personne à mi-temps. Donc, la façon dont on aime bien fonctionner, c'est d'avoir localement une petite structure avec des enseignants qui interagissent et un correspondant ou une correspondante qui peut donc recueillir les questions et revenir vers moi autant qu'elle le veut, pour que je fasse un petit échange aussi fréquent que nécessaire, pour que je puisse répondre et qu'après, ça diffuse localement. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui doit venir du terrain avec un travail de digestion, avec pas mal de liberté pédagogique au niveau local. Moi, j'interviens finalement assez peu parce que de toute façon, bah, je ne pourrais pas hein, pour des raisons de temps. Et finalement, ça fonctionne pas mal comme ça. Après, ce qu'on essaie de mettre en place, justement, chez vous, c'est de là que ça part. C'est par exemple des groupes de discussion type Facebook et autres pour qu'il y ait vraiment une communication horizontale entre les enseignants. Ça, c'est, pour l'instant, c'est ce qu'on cherche encore à développer. Mais c'est vraiment cette idée d'archipel, quoi, avec des petits îlots ici et là, et puis très autonome, et avec, quand c'est nécessaire, ben, une interaction avec moi.
Alors, le groupe d'expérimentateurs, c'est à la base une demande de M. Lachaud qui souhaite faire vivre le programme Atoll à travers des séances dédiées pour lui donner du sens et ne pas rester dans la théorie pure et simple de qu'est-ce que l'attention, comment on perd l'attention, l'attention est volatile, comment on reprend le contrôle, voilà, en étant un peu plus concret. Cet après-midi, on va travailler autour des indicateurs qui nous permettent de mesurer les capacités attentionnelles simples, juste les capacités attentionnelles, c'est-à-dire non parasitées par d'autres activités ou d'autres compétences.
Pour terminer un petit peu sur cette thématique, j'aurais une dernière petite question sur peut-être un peu une question pour laquelle c'est pas très facile de répondre puisque on va parler des effets du programme sur les élèves et sur les profs, sachant que c'est peut-être difficile d'isoler les données, de savoir voilà qu'est-ce qui est du fait du programme, qu'est-ce qui est du fait d'autres choses. Finalement, il n'y a pas forcément qu'une seule cause à différents phénomènes, mais est-ce que quand même, vous avez réussi à avoir des données sur les effets à la fois sur les élèves et sur les profs qui suivent le programme.
Oui, alors bien sûr, bah nous, ce qu'on aimerait évidemment, c'est l'objectif du programme, c'est que ça transforme l'attention des élèves, c'est-à-dire qu'ils aient une meilleure maîtrise de leur attention. Pour tester ça réellement de façon rigoureuse, c'est le déploiement, enfin, toute une logistique qu'on est en train de mettre en place avec, au sein des académies de Bordeaux et de Lyon, avec des classes contrôle, etc. Donc ça, c'est un travail qui va être fait pendant les 3 prochaines années. Donc pour l'instant, on en est au stade de recueil d'informations, de voir ce qui vient du terrain. Et pour l'instant, ce qui ressort de façon assez évidente, c'est vraiment déjà un changement de posture, un changement d'attitude vis-à-vis de l'attention. C'est-à-dire qu'on n'est plus du tout dans quelque chose de culpabilisant, concentre-toi, sois plus attentif. On est dans le diagnostic, on se pose. Et quand je dis « on », c'est professeur et élève. Et ensemble, pour ensemble essayer de comprendre comment fonctionne l'attention et de pointer, de mettre un nom sur les problèmes qu'on rencontre au quotidien. Donc, on est donc vraiment dans une approche beaucoup plus, j'allais dire bienveillante, le mot est un peu galvaudé, mais par rapport à l'attention, c'est un peu quand même cette idée, c'est de la compréhension. Après, j'ai des tonnes d'anecdotes de classes qui fonctionnent mieux, quoi, beaucoup mieux. J'ai mais bon, ça reste de l'anecdote. J'ai une professeure de français en sixième qui m'a dit, ben, au début de l'année, je détestais mes élèves. Elle le dit ça un petit peu avec le sourire. Et j'ai fait Atoll et maintenant, je les adore. Donc, c'est ce genre d'anecdote-là. Ça montre que la relation a complètement changé, justement, entre l'enseignant et le groupe, en fait, ne serait-ce que ça. Et après, donc, en ce qui concerne la maîtrise de l'attention, ben, on verra. Sachant qu'il faut bien avoir à l'esprit que c'est de toute façon un programme qui est assez condensé, enfin qui dans le temps n'occupe pas tout le programme, hein, on en fait de temps en temps. Donc si vous faites une comparaison avec la musique ou l'apprentissage, je sais pas quoi, de la course à pied ou du basket, comme il peut y avoir en sport au collège, on se doute bien qu'il va falloir qu'il y ait vraiment un transfert important dans la classe, c'est-à-dire que quotidiennement, on fasse du Atoll, on utilise les techniques Atoll pour vraiment obtenir un changement, parce que si c'est juste une heure de ci, de là, ce sera plus une initiation qu'autre chose, de la même façon qu'on ne fait pas des basketteurs professionnels en un trimestre de basket en gym.
Et moi, je rebondis sur ce que vous dites, sur la question de Marjorie, effectivement, pour avoir un petit peu pratiqué aussi avec mes élèves, avoir lu un certain nombre de vos ouvrages, c'est vrai que cette relation change parce qu'on se change aussi avec les éléments que vous apportez dans Atoll. Moi, je sais que que ça a transformé ma vision de l'attention et je le disais tout à l'heure aussi dans les pratiques très concrètes qu'on peut amener au quotidien avec vos fameux acronymes PIM, PAM, que j'engage vraiment les gens à aller regarder à quoi ça correspond effectivement. Donc on se transforme aussi, on transforme l'élève et du coup effectivement je trouve que votre anecdote elle est très parlante et elle n'est pas si anecdotique que ça puisqu'on transforme la relation éducative. Si on prend un tout petit peu de champ, puisque c'est aussi l'objet de ce podcast, c'est d'embrasser un peu plus large que le programme Atoll autour des neurosciences en éducation. On aimerait avoir quelques éléments autour de neuromythes en éducation. Est-ce que vous pourriez dire en quelques mots ce que c'est un neuromythe? Et peut-être si vous avez, je ne sais pas, un ou deux exemples en tête pour les personnes qui nous écoutent.
Ouais, alors un neuromythe, c'est quelque chose qui intuitivement semble vrai et auquel on va donner comme justification un support de neurosciences qui sont un petit peu pas extrêmement solides. Donc on va essayer d'expliquer par le fonctionnement du cerveau, souvent une compréhension du fonctionnement du cerveau qui est très approximative, quelque chose dont on a l'impression qui n'est pas faux, qui n'est pas vrai, je veux dire, scientifiquement, qui n'est pas validé scientifiquement. Alors des exemples... Il y a un très bon livre dessus de Elena Pasquinelli, si je ne me trompe pas, qui a écrit là-dessus. Moi, celui qui me viendrait à l'esprit, c'est peut-être la Brain Gym. Là, il me semble qu'on est un peu dans les neuromythes. Je veux que ces personnes, mais le fait de dessiner un petit signe infini avec le doigt pour équilibrer les deux hémisphères, droit et gauche, je ne vois pas trop comment ça pourrait fonctionner, ni ce que ça pourrait vraiment apporter, ou en tout cas un mécanisme possible neuronal, ça me paraît vraiment très très obscur. Voilà, bon, ce genre, on aura envie de dire que puisqu'on fait un petit mouvement qui va à droite à gauche, les deux hémisphères cérébraux, on les relie, mais enfin c'est vraiment, on est au niveau de la métaphore pure, hein, sans fondement scientifique. Donc, c'est l'exemple de neuromythe qui me viendra à l'esprit là.
D'accord, merci. Merci effectivement pour l'exemple très parlant. C'est vrai que moi j'avais en tête peut-être le prisme sur le genre, le cerveau des hommes et le cerveau des femmes qui ne fonctionneraient pas de la même manière et les différents apprentissages qui ne s'activeraient pas de la même manière en fonction qu'on soit un homme ou une femme. Donc effectivement, j'avais ça en tête comme neuromythe. Il y a eu pas mal de littérature scientifique là-dessus aussi.
Je peux rebondir dessus si vous voulez. Effectivement, c'est l'idée que les femmes sont plus multitâches que les hommes. Donc ça, c'est vraiment, on a tendance à le croire, mais en fait, les expériences qui ont essayé de valider sur des tâches type calcul mental, enfin des tâches qui vraiment demandent d'être attentif à deux tâches en même temps, ne montrent pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc là, voilà, donc un exemple de neuromythe.
Voilà, qui est réellement invalidé par les travaux de la recherche.
Tout à fait.
Alors, il n'y a pas de séance type dans Atoll, par contre, il y a plusieurs séquences. Le programme se développe en 10 séquences, qui sont sur différents thèmes, donc la métacognition, la mémorisation, etc. Et donc, au cours de ces séquences, il y a plusieurs activités à réaliser en classe avec les élèves. Donc, elles ne sont pas toujours organisées de la même façon, mais au final, elles rejoignent toutes un domaine du programme, ou en tout cas du socle commun. On me demande souvent en fait comment je fais pour faire Atoll en plus de tout le reste à l'école. Mais si on prend ne serait-ce que le socle commun, il y a un des domaines, c'est méthode et outils pour apprendre. Donc en fait, connaître son cerveau, savoir comment il enregistre, comment il peut être attentif, ça fait partie des méthodes pour apprendre. Donc ça rejoint à mon sens complètement ce qu'on doit apprendre aux élèves. Et je rejoins en fait le programme au niveau de la matière qui est travaillée dans l'activité. Des fois, c'est des activités plutôt sportives qui permettent de mettre le cerveau à l'épreuve. Donc, je prends sur le créneau de sport. Si c'est des activités qui mettent les élèves en relation les uns avec les autres pour justement travailler en fait la connexion qu'il y a entre les neurones, par exemple, ça, je prends sur le temps d'éducation civique. Et il y a aussi beaucoup de temps de langage oral, de verbalisation qui est très intéressant à mener avec les élèves.
Alors, on avait également, comme dit Régis, pour prendre un petit peu de hauteur de manière générale, on se posait la question de la réussite scolaire et de l'attention, en se disant que dans le cursus justement des enseignants, dans leur pratique scolaire, étant donné que les enseignants ont souvent quand même été, c'est sans doute la majorité des cas, de bons élèves, donc qui peut-être n'avaient pas de problème d'attention, comment est-ce que, dans quelle mesure pour eux, c'est complexe ou c'est difficile de se mettre à la place d'élèves qui ont des soucis d'attention qui les mettent en difficulté d'un point de vue scolaire? Est-ce que pour eux, ça peut être plus difficile de comprendre un petit peu ces mécanismes et le fait qu'on ait besoin de travailler un petit peu cette attention? Comme ce n'est pas quelque chose qui va de soi, même si ça allait de soi peut-être pour eux, ces enseignants qui ont réussi plutôt un bon cursus scolaire. Voilà, dans quelle mesure l'intégrer dans leurs apprentissages, c'est peut-être pas évident pour eux?
Alors oui et non. Après, je pense que toute personne, tout adulte qui a été élève a forcément des matières qu'il préférait à d'autres. On s'est probablement tous retrouvés dans des situations de classe où, avec, vraiment sur la matière qu'on aime le moins, on a beaucoup de mal à se concentrer parce qu'on n'aime pas, parce que ce qu'on appelle le circuit de la récompense n'est pas là pour nous motiver, pour accrocher l'attention au cours. Des difficultés avec son attention, je crois qu'on en a tous, hein, finalement. Je vais être un peu vache, mais, et moi y compris, mais je pense qu'on est tous assez moyens en termes d'attention, de capacité attentionnelle par rapport à ce qu'on peut faire, ce à quoi on peut vraiment arriver. Donc, c'est assez facile, même dans une journée type, de constater des petites failles de son attention, des moments de distraction, on n'est pas du tout à ce qu'on fait, ou même éventuellement en voiture, on risque un accident, enfin des choses comme ça. Ça arrive à tout le monde, finalement, toutes les petites bêtises qu'on peut faire. Ça parle à tout le monde. C'est pas si difficile que ça de se mettre dans la situation d'un élève qui n'arrive pas à s'accrocher, qui n'arrive pas à rester attentif au cours.
Oui, c'est quelque chose d'un peu universel, effectivement, cette fameuse attention à laquelle on court effectivement tous. Au-delà d'un programme expérimental comme Atoll qui est déployé à travers différentes académies, vous, de votre point de vue de chercheur, quelles pistes vous voyez pour peut-être mieux ou différemment former les enseignants à cette si sensible attention?
Une façon de faire, enfin un angle d'attaque qui serait intéressant, c'est d'envisager une éducation de l'attention de l'enseignant, située dans sa pratique professionnelle et voire dans sa vie personnelle. C'est-à-dire que c'est pour enseigner l'attention à ses élèves, pour dire telle stratégie peut être utile dans ce cas-là. C'est quand même utile d'avoir constaté par soi-même l'utilité de ces stratégies dans son métier à soi. Or, justement, il se trouve que le métier d'enseignant est assez, assez sollicitant en termes d'attention. Vous avez cette attention un petit peu double toute la journée, où vous devez à la fois être dans une sorte de surveillance du climat de classe, et puis en même temps dans votre fil directeur. Enfin, il y a pas mal de niveaux comme ça à gérer en permanence. D'ailleurs, certains enseignants n'ont pas cette capacité attentionnelle de fluidité et sont en difficulté, finissent très fatigués la journée. Tout ce travail-là, il y aurait moyen de présenter l'attention et les stratégies attentionnelles d'une façon qui va réellement aider, qui va proposer des solutions aux enseignants dans leur pratique professionnelle, pour eux-mêmes en fait, en termes de moindre effort, de plus grande efficacité, etc., et de plus grand plaisir même à enseigner. Et dans ce cas-là, je pense qu'on toucherait dans le mille. C'est-à-dire que les enseignants comprendraient vraiment l'intérêt d'une éducation de l'attention, comprendraient la façon dont elle est bâtie, et ensuite seraient plus en mesure de l'expliquer.
Ça veut dire que après Atoll, après Adol, un projet spécialement dédié aux adultes et notamment aux enseignants, c'est imaginable.
Oui, tout à fait. Bah justement, la circonscription d'Oula avec qui on avait commencé, et notamment l'IEN Stéphane Garapon là-bas, est très actif et nous a explicitement lancé là-dessus en disant: est-ce qu'on ne pourrait pas envisager un programme de construire un programme d'éducation de l'attention pour l'enseignant? Vraiment, c'est-à-dire que vraiment dans sa vie professionnelle, comment est-ce que je gère le fait d'avoir j'ai mon rétro-projecteur qui ne marche pas, ou je dois aller chercher un fichier, et en même temps je dois surveiller toute la classe, et en même temps je dois penser à ce que je fais juste après, enfin tout ce jonglage attentionnel, comment ça s'apprend, comment ne pas avoir l'esprit qui explose face à 1000 tâches en même temps, comment éviter toute cette surcharge cognitive, etc., surcharge mentale. Donc ça pourrait être une super bonne piste.
Ah oui, ah ben, je pense qu'il y aurait pas mal de candidats.
Moi, je suis prêt à signer personnellement.
Même pas en tant qu'enseignante, mais pour moi, personnellement, ça m'a appris déjà énormément de connaissances sur le cerveau. Je suis partie de zéro, j'y connaissais absolument rien. Je suis pas experte maintenant, mais j'ai beaucoup plus de connaissances. Donc, j'arrive mieux à analyser comment mes élèves apprennent et comment moi, j'apprends aussi dans ma vie de tous les jours et comment je fonctionne au niveau de l'attention. Ne serait-ce que pour les écrans. On parle beaucoup en fait que les écrans font du mal en fait aux enfants, mais il n'y a pas que les enfants en fait qui sont concernés par les écrans, les adultes aussi. Et moi, je ne fais pas exception. Et grâce à Atoll, en fait, maintenant je réfléchis à mon utilisation des écrans, à réduire le temps en fait que je passe dessus sur les réseaux, etc., pour être plus disponible pour les choses en fait qui demandent vraiment de l'attention et pour lesquels je dois être disponible. Donc ça m'a apporté beaucoup en matière de connaissances, mais aussi en matière d'attention, parce que voilà, on est tous soumis aux mêmes forces extérieures et intérieures, et il faut qu'on lutte contre ça pour rester connectés à nous-mêmes en fait.
Dans la troisième partie de ce podcast, on aimerait mettre un petit peu le focus sur le numérique. On a même intitulé en off cette partie « Attention au numérique », avec tous ces éléments autour de cette fameuse économie de l'attention dans laquelle on vit tous les jours. On connaît cette fameuse formule dont on taira le nom de l'auteur, du temps de cerveau disponible. Mais on se demandait effectivement comment, dans quelle mesure il est possible de détourner toutes les techniques, on va dire, issues du marketing pour justement capter notre attention et nous rendre esclaves. Est-ce qu'il y a une manière de voir, de détourner ces éléments-là pour le monde de l'éducation, ou au moins, à minima, les déjouer?
Oui, alors effectivement, il faut savoir que les techniques qui sont utilisées donc dans ces nouvelles technologies pour attirer l'attention, ces techniques sont vieilles comme le monde, ou presque. Et, par exemple, prenez la magie. Les magiciens utilisent couramment ces techniques pour vraiment manipuler l'attention de leurs spectateurs et du coup créer des zones d'ombre où ils peuvent préparer leur tour, etc. Il y a un autre exemple célèbre, c'est celui des pickpockets, etc. En tout cas, ça veut dire qu'il ne faut pas forcément de la technologie pour manipuler l'attention d'un auditoire. C'est plus un talent, voire un art qui se développe. Alors, est-ce que ça veut dire que les enseignants devraient avoir des cours, non pas pour devenir pickpocket, mais de prestidigitation? En tout cas, je pense que, par exemple, dans l'enseignement du théâtre aussi, il y a une façon de placer sa voix, de se poser pour assurer une présence. Enfin, il y a comme ça, c'est un art qui peut se développer, le fait de capter l'attention sur soi. Notamment à travers vraiment tous ces spectacles où on est face à une scène, face à un public. Il y a beaucoup à apprendre de ça. Alors après, la question de la technologie, elle nous envoie plutôt vers le fait, l'idée de développer des applications qui utiliseraient justement tout ce qui peut être déployé dans les jeux pour avoir l'attention des élèves complètement captée par le jeu. Alors oui et non, parce que le problème, c'est que si on fonctionne comme ça, qu'on développe ce type d'application, il faut un peu que tout soit à l'unisson, parce que si vous avez certains contenus qui sont appris comme ça, ou présentés comme ça, les élèves vont adorer, et d'autres contenus qui sont présentés sous une forme plus classique, ils vont paraître du coup très embêtants. Donc ça va créer là encore un petit peu des zones d'ombre, ça va défavoriser certains contenus pédagogiques. Et puis l'autre aspect, c'est que dans la vraie vie, on n'est pas sans arrêt dans un jeu vidéo conçu pour qu'on fasse attention. Il faut apprendre soi-même à gérer son attention en dehors d'un jeu vidéo, dans des situations qui ne sont pas forcément hyper stimulantes, hyper gratifiantes immédiatement.
Ça nous permet de rebondir un petit peu sur l'autre élément justement qu'on avait envisagé sur cette partie de l'attention avec le numérique. C'est qu'on entend de plus en plus souvent les enseignants ces derniers temps qui nous disent que c'est difficile pour eux en classe puisque les élèves arrivent à l'école avec toute une panoplie maintenant de pratiques culturelles, de loisirs, où ils sont beaucoup sur les téléphones portables, les smartphones, les tablettes, et qu'ils ont l'habitude en fait de consommer du contenu dont vous parlez par rapport à ces fameuses récompenses qui les tiennent un peu en attention comme ça. Ils arrivent à l'école avec toute cette habitude comme ça de surrécompense par rapport à leurs usages. Mais en fait, ils arrivent comme ça, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les changer. Et la question, c'est comment on fait quand on est enseignant pour faire avec, puisqu'en fait, par définition, on ne peut pas faire sans. C'est plus difficile, semble-t-il, mais est-ce qu'il y a une solution quand on est enseignant pour gérer justement ces élèves qui arrivent avec des pratiques culturelles particulières ?
Oui, bien sûr, c'est cette idée que on est de plus en plus, avec tous ces contenus récréatifs numériques, habitués à être tenus en haleine. Mmh. Je sais que j'avais été contacté par une journaliste qui me disait qu'il était, il était question de raccourcir la durée des chansons, en général, parce qu'elle devenait trop longue par rapport à la durée d'attention des consommateurs, on peut dire. Hein. Mais c'est la fuite en avant, en fait, ça n'a pas de sens. De toute façon, l'enseignant ne va jamais pouvoir lutter contre ça. Ce n'est pas possible de tenir des élèves en haleine de la même façon qu'une série, etc. C'est perdu d'avance, en fait. Donc, moi, je pense que la seule façon de faire, c'est qu'il faut distribuer la tâche. C'est-à-dire qu'il faut que les élèves jouent leur rôle. Il faut qu'il y ait une prise de conscience de la part des élèves, et c'est l'intérêt d'un programme comme Atoll, c'est vraiment ça, c'est de dire on ne peut pas le faire le travail pour vous, on ne peut pas s'habiller en clown tous les jours, etc., et puis passer 40 heures à préparer un cours d'une heure pour qu'il soit phénoménal, hein, et que vous soyez vraiment complètement captivé par le cours à chaque minute. C'est pas possible, ça c'est un travail de cinéaste Hollywood qui demande des millions, c'est absolument impossible. Donc à un moment, il faut partager la responsabilité. Il faut que les élèves prennent conscience des limites de leur attention et de dire oui, effectivement, bah, j'ai bien compris que mon circuit de la récompense aimait un certain type de contenu, etc., une certaine façon de faire le cours, mais je ne suis pas que mon circuit de la récompense. Je ne suis pas obligé de lui obéir en permanence. Je peux prendre du recul par rapport à son fonctionnement, observer ses frustrations, et même à la limite, et me détacher de ça, et moi devenir acteur de mon attention, plutôt qu'être sans arrêt en situation de passive, où j'attends, en tant qu'élève, qu'on capte sans arrêt mon attention. Il faut vraiment, dans l'intérêt d'une éducation de l'attention, c'est pour que, effectivement, les élèves en reprennent la maîtrise, et que ce ne soit pas à l'enseignant de tout faire, parce que c'est impossible.
Ça passe par une vraie conscientisation des choses. Alors je vais faire un parallèle qui sera peut-être hasardeux, et sans doute beaucoup moins qualitatif que ce que vous savez faire, Monsieur Lachaud, dans vos différents ouvrages, mais ça me fait penser à ce qu'on vit actuellement autour de l'anthropocène, c'est-à-dire, pour prendre ça en compte, il faut un vrai changement de culture autour de cette notion-là, et là, sur l'attention, effectivement, la fuite en avant, elle mènera à rien, et si tout le monde ne prend pas conscience qu'on ne peut pas être dans un blockbuster en classe tous les jours parce que les profs seraient en burn-out au bout d'une séquence pédagogique, effectivement, ça pose question.
Et puis peut-être aussi l'idée que ça c'est quelque chose qui a besoin de se construire sur le long cours, puisque là, vous nous avez dit la conscientisation, en prendre conscience, mais quelquefois, dans un tout autre domaine, voilà, moi j'ai un professeur de sociologie qui nous avait dit, alors c'était pour les inégalités hommes-femmes, la construction des rôles sociaux, que c'est pas parce qu'on sait comment la maison est construite que la maison n'est pas solide. C'est-à-dire qu'on a cette idée que même si on sait que tout ça, ça fonctionne comme ça, c'est difficile de sortir des réflexes ou de se détacher consciemment de quelque chose qu'on fait de manière inconsciente. Donc voilà, comme vous l'avez dit un petit peu au début de l'intervention, peut-être ça demande justement du temps, c'est-à-dire de ne pas en faire juste une heure comme ça de temps en temps, puisque là on n'arriverait pas à sortir de ces réflexes ou de ces habitudes comme ça culturelles ou de pratiques.
Tout à fait, et c'est pour ça que dans Atoll on prend l'image du sens de l'équilibre, puisque ce qui se passe, en fait, c'est une déstabilisation permanente de l'attention. Donc, l'attention qui devrait être stable, en fait, déstabilisée par toutes les distractions qu'il y a autour. Donc, oui, ce qu'on essaie de développer chez eux, c'est cette capacité à rester stable malgré la perte d'équilibre. C'est-à-dire que leur attention est captée ici et là. Donc, tout de suite réagir et se restabiliser. Et c'est un travail sur le long cours, exactement de la même façon que c'est un travail sur le long cours d'apprendre à rester stable au judo quand vous avez un adversaire qui va essayer de vous fiche par terre. Ou au ski, ou sur un BMX, ou sur un skate. Au début, on tombe, et puis au bout d'un moment, on finit par développer cette capacité à remarquer très tôt qu'on va tomber et tout de suite se restabiliser. Et c'est vraiment ce qu'on veut développer au niveau de l'attention. Et on va au-delà de la métaphore parce que l'attention et le corps sont extrêmement liés, notamment au niveau des yeux, de la tête, etc. Donc on va utiliser ce lien très fort pour justement utiliser cette ficelle, la tirer pour faire de vrais funambules de l'attention.
Incorporer les nouveaux réflexes, mais pour l'attention.
Tout à fait. C'est ça, avec le temps.
Quand je vous parlais de métaphores très signifiantes, voilà à quoi je faisais référence. Et c'est vos travaux, en tout cas de vulgarisation, en sont truffés. Et je trouve que c'est, encore une fois, extrêmement parlant, autant pour les élèves que pour nous. Bah, il nous reste à vous remercier grandement, Monsieur Lachaud, d'avoir participé à cet épisode du podcast. Et bah, on espère avoir tenu en haleine là, pendant ces petites 30 minutes les auditeurs autour de cette question fondamentale de l'attention à l'école. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, c'est un vrai plaisir.
Merci à vous. Et rappelons que vous aurez accès évidemment à l'intégralité des entretiens qui seront réalisés avec Aurélia Onisco et Dolores Stritch et qui seront accessibles juste sous cet épisode sur la page du pôle de développement professionnel des enseignants de Réseau Canopé.
Parce que le dire c'est bien, mais que le faire c'est mieux, nous voilà donc au pôle ressources pour vous présenter des essentiels concernant les neurosciences en éducation et plus particulièrement l'attention à l'école.
La première ressource que nous vous proposons, il s'agit d'ATOL, guide de l'enseignant, 10 séquences clés en main, apprendre l'attention à l'école, par Jean-Philippe Lachaud, une coédition MDI et Réseau Canopé. Comme son nom l'indique, cette publication est un complément au programme ATOL qui a pour but d'accompagner les enseignants dans la mise en place de la méthode avec 10 séquences, comme on dit clés en main, c'est-à-dire complètement construites de la présentation des objectifs au contenu pas à pas d'une séance jusqu'à la synthèse finale et l'évaluation de fin de séance.
Deuxième essentiel, Réseau Canopé vous propose une série de 4 parcours magistères pour s'interroger sur les stratégies cognitives des élèves et adapter sa pédagogie afin de mieux répondre aux besoins spécifiques de chaque élève. Le premier parcours s'intitule simplement « Découvrir le fonctionnement du cerveau et la cognition à l'école élémentaire ». Les parcours suivants font un focus respectif sur l'attention, l'inhibition et la flexibilité, ces processus cognitifs engagés dans l'apprentissage dont certains restent méconnus des enseignants. Chaque module d'une durée d'1h30 est indépendant des autres. Les 4 parcours sont destinés à des enseignants de cycle 2 et 3, mais restent pertinents pour tous les enseignants n'ayant pas été formés à ces aspects des sciences cognitives.
Et enfin, dernier focus que nous vous présentons, la course à l'attention, le dossier d'accompagnement à la série Dopamine de Arte par Réseau Canopé. Réseau Canopé propose d'accompagner la web-série documentaire d'Arte Dopamine et le sujet de la captation de l'attention à travers plusieurs axes. Chercheurs, designers, enseignants, médiateurs et associations nous éclairent sur les mécanismes d'une économie de l'attention, sur les coulisses du design persuasif et le plaisir procuré par les nombreuses interactions et sollicitations numériques. Loin d'une vision naïve et fantasmée ou même pessimiste, ils évoquent aussi les pratiques concrètes des adolescents et la nécessité de faire le lien entre les données, les algorithmes et l'accès à l'information dans l'éducation aux médias. Ce dossier propose également des pistes pédagogiques qui se veulent une source d'inspiration pour des activités, débats et expérimentations à mener avec ses élèves en classe en utilisant principalement la web-série documentaire Dopamine.
Nous voilà donc au terme de ce 3e épisode du Pôlecast, le podcast du pôle de développement professionnel enseignant de Réseau Canopé.
Rendez-vous dans quelques mois pour le prochain numéro.